Dominique Lemaître, Benjamin Moreau, bonjour.
Nous sommes ensemble comme nous en avons l'habitude, hein, désormais, jusqu'à midi, pour beaucoup entendre parler d'associations avec des responsables d'associations, qui vont se faire entendre tout à l'heure, par exemple, hein, entre 11h et 11h30, dans le cadre de l'agenda des associations. À cet égard, si vous êtes l'un de ces responsables, si vous voulez communiquer sur une prochaine actualité, une prochaine manifestation que vous organisez, n'hésitez pas à en faire part à Amandine Zegbib, elle est là pour vous, via le 01 56 88 40 20. 01 56 88 40 20. Et dans un instant, je vais recevoir le CERTAM. Le CERTAM, c'est le Centre d'évaluation et de recherche de technologie pour les aveugles et les malvoyants. Trois personnes avec nous. Et il y a Fernando Pinto da Silva, Jean-Pierre Carpanini et Linda Lachièvre. Évidemment, si vous êtes intéressé par les nouvelles technologies et voulez vous exprimer, 01 56 88 40 20. C'est parti pour une nouvelle vie des associations qui va recevoir aujourd'hui le CERTAM, qui est le Centre d'évaluation et de recherche d'études sur la technologie pour les aveugles et les malvoyants. J'ai dit ça un petit peu dans le désordre, je vais essayer d'être plus correct et plus concis avec le nom des invités et qui sont là ici pour représenter le CERTAM. Il y a Fernando Pinto da Silva, Jean-Pierre Carpanini et Linda Lachièvre. Tous trois, je vous salue.
Bonjour.
Merci,
bonjour.
Messieurs, dames, d'être parmi nous, et même si je sais que parmi vous, il y a quelques timide, mais je sais que à mesure que l'émission va se dérouler, tout ça va se dérider considérablement. Si tant est qu'il y a quelqu'un de ridé ici, je ne voudrais vexer personne, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est que, d'abord, ces nouvelles technologies? On va peut-être commencer dans l'ordre, et à savoir, quand est né le CERTAM? Fernando, peut-être?
Alors oui, donc le CERTAM est né en 2008, à l'association Valentin Huy. Donc ça faisait longtemps en fait que le projet émergeait de créer un centre qui serait spécialiste des nouvelles technologies pour les aveugles et les malvoyants. On en avait entendu parler déjà depuis des années. Ça se faisait pas vraiment pour des histoires d'organisation, pour trouver des moyens, des financements.
C'est pas tant par l'absence des technologies elles-mêmes et de ce qu'on faisait dans le sens en direction des personnes aveugles et malvoyantes que parce que il y avait problème de financement.
Bah, il y avait problème de financement, problème de compétences, mais c'est pas de la faute des technologies. Les technologies, elles sont présentes dans la vie quotidienne des déficients visuels, je dirais globalement depuis le milieu des années 70. Hein. Donc, vous voyez que le sujet est pas récent. Maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'elles sont de plus en plus présentes, et il fallait effectivement, sans doute, là, un acteur supplémentaire. Pour pouvoir un petit peu décrire quels sont les matériels, les logiciels, les services en ligne accessibles, ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en attendre quand on est mal ou non-voyant. Et donc l'association Valentin Huy s'est lancée dans cette aventure en 2008 avec la constitution de l'équipe du CERTAM telle qu'on la connaît aujourd'hui, je dirais depuis décembre 2008.
En fait. Aujourd'hui, combien de personnes travaillent au CERTAM en façon de, oui, dans l'enceinte du CERTAM et travaillent, hein, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Hein.
Alors le CERTAM aujourd'hui, il y a 5 salariés, dont un salarié qui nous a rejoint tout juste la semaine dernière. Et on a ensuite beaucoup de bénévoles. En fait, on a, je dirais, une vingtaine de bénévoles qui viennent nous aider à tester du matériel, des logiciels, et qui donc vont aussi donner leur avis sur l'ensemble des solutions qu'on essaye d'évaluer. En fait, donc on fait les évaluations avec eux et on fait pour certains une partie de la rédaction avec eux.
Alors avec eux, avec les salariés du CERTAM, mais uniquement ou vous rejoignent aussi sporadiquement et selon les besoins des personnes, j'allais dire des consommateurs ou futurs consommateurs lambda.
Non,
comment ça fonctionne?
C'est ce que je disais auparavant, c'est-à-dire que c'est les salariés et les bénévoles, donc cette vingtaine de bénévoles qu'on accueille et qui eux sont pas salariés, sont des gens. Je pense que Linda parlera peut-être de son expérience tout à l'heure. Qui au départ sont pas forcément technophiles, certains le sont, mais d'autres le sont pas nécessairement, mais en tout cas sont intéressés par cette question de l'accès à l'information, l'accès à la communication quand on n'y voit pas, quand on y voit mal, et qui du coup veulent nous aider sans doute à apporter un peu plus le regard du novice ou en tout cas de la personne qui n'est pas, je dirais, là-dedans, à baigner là-dedans toute la journée. En
fait. C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que vous faites appel à cette vingtaine de bénévoles et après avoir fait le tour d'horizon de l'expérience de ces bénévoles, là, vous lancez l'évaluation proprement dite. C'est-à-dire que vous ne confiez pas les matériels, d'autres matériels à des personnes qui ne font pas du tout partie de votre association et de votre centre.
Non, pour l'instant, effectivement, on confie les matériels et les logiciels aux bénévoles qui veulent rejoindre notre équipe. Cela étant, on est toujours en recherche de bénévoles et je profite de l'occasion qui nous est donnée ce matin pour dire que si d'aucuns veulent venir tester des aides techniques, matériel ou logiciel, ils sont bien évidemment les bienvenus.
Alors, quand on entend parler d'aides technologiques, quand on entend parler de nouvelles technologies, ça peut faire frémir certaines personnes. J'imagine que aujourd'hui, vous le dites, hein, ça fait plus de 30 ans que les nouvelles technologies s'intéressent aux personnes aveugles et malvoyantes. Mais est-ce que pour autant les personnes aveugles et malvoyantes se sont intéressées très vite aux nouvelles technologies? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Vous faites une évaluation du matériel. Est-ce que vous êtes en état, en possibilité de faire une évaluation du public qui utilise ces nouvelles technologies?
On n'a jamais fait, en tout cas, d'études sur le public qui s'y intéresse. Mais bon, schématiquement, ce qu'on peut dire, c'est que pendant de nombreuses années, les technologies ont été extrêmement coûteuses. Elles le sont d'ailleurs encore pour certaines. Mais ce qu'on constate depuis, je dirais, une petite dizaine d'années, c'est que les coûts, en tout cas pour certaines, sont en train de baisser. Il y a de plus en plus d'offres. Je pense en particulier à la base vision, dont Jean-Pierre nous parlera sans doute tout à l'heure. Et donc de ce fait, l'offre étant de plus en plus importante, les coûts parfois baissant, beaucoup plus de gens sont amenés, ou en tout cas peuvent s'y intéresser beaucoup plus qu'avant, où il fallait absolument de toute façon avoir soit un financement dans le cadre d'un équipement de poste, soit des choses comme ça. C'était beaucoup plus difficile de toute façon d'y accéder. On avait aussi du mal à y accéder pour la simple et bonne raison qu'on n'avait pas l'information, c'est-à-dire qu'on ne savait pas exactement ce qui existait sur le marché, pour pallier quels besoins, etc. Et c'est toute la mission du CERTAM que d'essayer d'apporter l'information aux gens qui ne l'ont pas.
Le CERTAM est avec nous, le centre d'études et d'évaluation, je recommence, de recherche des technologies pour les aveugles et malvoyants. Il est bien évident que si vous êtes intéressé par ces technologies, si vous voulez de mettre votre grain de sel, c'est maintenant que vous allez pouvoir rejoindre nos invités via le 01 56 88 40 20. Linda Lacquièvre, Jean-Pierre Carpanini et Fernando Pinto da Silva sont parmi nous pour nous parler du CERTAM, qui est le centre d'évaluation de recherche des technologies en direction des aveugles et des malvoyants. Alors, ces technologies, elles passent forcément par l'informatique aujourd'hui, hein, il y a pratiquement que ça, ou il y a d'autres technologies, d'autres choses qui sont, j'allais dire, légères, pour lesquelles il n'y a pas forcément besoin d'ordinateur et qui sont très utiles aux aveugles et aux malvoyants, Fernando?
Je dirais qu'aujourd'hui, il y a souvent de l'informatique embarquée, on ne le sait pas nécessairement, mais non, il y a des appareils comme des GPS, par exemple, aujourd'hui, qui, pour les aveugles et les malvoyants, sont quand même, je pense, une aide technique importante. On peut trouver d'autres types d'appareils, comme des lecteurs de livres, des lecteurs MP3 adaptés, des choses comme ça.
Ça, des lecteurs MP3 adaptés, sans avoir recours à l'ordinateur proprement dit, ça, c'est possible, on peut trouver.
Ah ben, il y en a de plus en plus, l'offre est importante, oui, absolument, des lecteurs qui sont vocalisés et qui permettent justement de pouvoir lire des livres confortablement sans nécessairement avoir un ordinateur à portée de main.
Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais pendant qu'il vous parlait, Fernando a fait agir une fermeture éclair, puis un scratch à l'instant.
Absolument.
Hein, ça veut dire qu'il a quelques petits trésors comme ça dans sa manche et je pense qu'il va nous faire profiter de ces nouvelles technologies. Il va nous expliquer un petit peu le fonctionnement de quelques-uns des appareils qu'on pourra avoir à évoquer.
Bah, très rapidement en tout cas, puisque je pense qu'on va pas faire une présentation exhaustive de la chose.
D'accord. Mais... Alors cela dit, Jean-Pierre aussi, hein, Linda, vous êtes concerné, et Fernando, on va mettre les casques parce que j'ai l'impression qu'il y a un auditeur en ligne. Voilà, Dominique vient de me faire signe. Alors on va accueillir la personne. Bonjour, quel est votre prénom?
Oui, tout à fait, Christian, oui.
Bonjour.
Oui, Christian, vous m'entendez bien?
Je vous entends.
Eh bien voilà, je voudrais parler du Victor Reader Stream, qui est vendu à Valentin Aoui à 345 €, qui est un livre électronique qui permet d'emmagasiner des ouvrages sur Internet, sur la bibliothèque numérique, et ainsi que sur le DESI. Sur le DESI, voilà. Et c'est extraordinaire. Alors sur le DESI, évidemment, ce sont des lectures qui sont très vivantes, c'est vrai, ce n'est pas monocorde. Alors que sur la bibliothèque virtuelle, c'est plutôt genre robotisé, un peu, c'est un peu lassant, c'est vrai. Mais pour le DESI, c'est extraordinaire, 345 €. Le Victor Reader Stream, j'en suis enchanté, ça fait 2 mois que je l'ai, 345 € payable en trois fois.
Pour voilà. Vous, c'est The Machine, quoi. Hein.
Oui,
il n'y a pas mieux. Hein.
C'est pas une machine à lire. lire. Hein. C'est un livre électronique.
Absolument. C'est vrai qu'avec le Victor, on peut vraiment tout lire. Enfin,
c'est formidable. C'est vrai. C'est vrai. Parce que le Top Braille à 1650 euros.
On va en parler peut-être tout à l'heure du Top Braille. Pourquoi pas?
Ce qui sort du concours Lépine, je ne sais pas s'il y a eu des grandes inventions qui en sont sorties. Hein.
Bon, voilà. C'est votre avis. Puis je vous remercie de l'avoir donné, Christian, en tous les cas.
Voilà.
Hein, et bonne continuation. Et puis on retient hein, pour vous. Et c'est bien de le dire. Ça fait plaisir d'entendre parler les personnes qui utilisent. On sait pourquoi on fait ces machines-là. On sait qu'elles sont utiles.
C'est fortuitement que j'en ai appris l'existence par le serveur vocal de Valentin Haoui. Mais tout à fait par hasard. Mais il faut le promouvoir de façon extraordinaire.
En tous les cas, s'ils ont besoin d'un représentant chez Victor, il n'y a pas de souci. Christian est là. Merci Christian.
Au revoir.
Merci infiniment. On va continuer. C'est bien, hein, c'est bien de témoigner parce que c'est vrai qu'on n'entend pas toujours justement les personnes aveugles et malvoyantes se prononcer sur ces nouvelles technologies. Alors vous en faites l'évaluation de ces appareils, donc vous connaissez mieux un petit peu le ressenti des uns et des autres. Mais nous qui ne les connaissons pas forcément tous, ces appareils qui parfois pour certains d'entre eux nous rendent un petit peu rétifs à la technologie. Moi j'ose le dire parce que je suis un petit peu frileux parfois quant à ça. C'est bien de vous entendre en parler. Alors Fernando, pendant ce temps-là, vous avez eu le temps de vous saisir d'un petit appareil, j'imagine.
Ben justement, c'était le Victor Reader Stream.
Ah bah c'est celui-là, c'est lui.
La coïncidence, c'était quand même.
C'est formidable.
On pourrait croire que c'était monté, mais même pas.
Un vrai aveugle clairvoyant, donc, hein, en la personne de Christian. Alors justement, vous allez nous prouver ce dont nous parlait à l'instant Christian. Alors attention, est-ce que ça va bien fonctionner?
Alors je vais essayer de l'approcher du micro.
Allez-y.
Donc là, en fait, j'ai un petit appareil, en fait, hein, qui est vraiment pas gros, qui est un petit peu plus grand, on va dire, qu'un paquet de cigarettes.
D'accord.
Et donc dedans, j'ai inséré une carte mémoire sur laquelle j'ai stocké des livres.
Ouais, alors une carte mémoire, c'est rien du tout. C'est une micro SD. Ça,
c'est voilà, c'est une SD. C'est deux fois l'équivalent d'un ongle à peu près. Et je vais pouvoir, par exemple. Voilà, chercher donc dans le catalogue de mes livres.
D'accord.
Livre 1.
Le temps des secrets, première partie.
Le temps. Bien devant le micro. Écoutez.
Vous lisez.
Allez-y.
Cette année-là, la première journée des grandes vacances ne fut pas celle que j'avais vécue par avance avec tant de frémissante joie.
Ouais.
Lily ne vint pas.
Avec la possibilité pour moi, par exemple, de diminuer la vitesse si je trouve que c'est trop rapide.
Alors ne vous fiez pas au son parce que là évidemment c'est un petit appareil, il est bien évident qu'on peut y adapter un casque.
Absolument.
Et puis bon bah alors si on est sur place, si on est chez soi, bah pourquoi pas le mettre sur un ampli, mais le but aussi c'est qu'on puisse lire au lit, j'allais dire, hein. Et puis là on gêne pas sa voisine en mettant la lumière, hein.
Au lit ou dans les transports ou
voilà, partout
où que ce soit. Ouais. Et un point qu'a souligné l'auditeur qui a appelé pour témoigner de son intérêt pour le stream, c'est qu'effectivement on peut lire des livres enregistrés au format DAISY, ça c'est très important parce que les livres sont structurés et permettent une meilleure navigation, mais on peut également lire des livres en MP3 standard, on peut lire aussi des livres de chez Audible par exemple, que on peut acheter en ligne entre autres, on peut lire en fait tout un tas de formats, c'est pas exclusivement un format dédié, c'est vraiment un lecteur de livres, soit audio soit effectivement électronique, qu'on peut télécharger sur différentes bibliothèques numériques
en fait. Alors il y en a qui vont dire 345 euros, ça coûte cher, mais il y a des possibilités de financement là encore, comment ça se passe, vous avez là aussi puisque vous faites des recherches sur les technologies, est-ce que par là même vous êtes en capacité de pouvoir nous dire qu'il y a des financements et vers qui on peut s'adresser pour tenter de profiter de ces financements?
Bah, en fait, aujourd'hui, les financeurs tels qu'on les connaît sont les maisons départementales des personnes handicapées, mmh, qui, elles, sont en capacité, effectivement, de monter des dossiers pour aider les gens à bénéficier donc de ces matériels dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.
Et ça, c'est tout à fait faisable. C'est pas, on n'entre pas dans des pérégrinations administratives qui vous laissent pantois et qui finalement vous font dire, eh ben, je vais y renoncer pour l'instant. On peut y arriver.
Absolument, oui. Enfin, en tout cas, certains le font. Après, je pense que certaines MDPH sont plus rapides que d'autres. Mais
ça c'est autre chose.
C'est autre chose.
Ben, en tous les cas, il y a quelque chose qui est passé rapidement. C'est le temps des 6 minutes. Hein. Ça veut dire qu'on va se retrouver après, vous qui représentez le CERTAM, et puis vous, peut-être, les auditeurs qui êtes intéressés pour, justement, vous déterminer sur l'emploi que vous avez pu avoir de tel ou tel appareil. N'hésitez pas à nous en faire part via le 01 56 88 40 20.
Vivre FM.
Nous sommes en pleine technologie, en pleine nouvelle technologie, haute technologie, je dirais, hein, puisque nous sommes avec le CERTAM, qui est le Centre d'évaluation de recherche des technologies pour les aveugles et malvoyants. Alors, Fernando Pinto da Silva, on n'oubliera pas Linda Lachièvre et Jean-Pierre Carpanini qui s'exprimeront. Eux, c'est plutôt du côté de la basse vision. Mais encore un appareil qui est assez étonnant, Fernando, et qui, j'allais dire, aujourd'hui est un appareil du commun, parce qu'on parlait tout à l'heure de ces appareils qui sont essentiellement dédiés aux personnes aveugles ou malvoyantes, hein. Mais il y a des appareils qu'utilise, j'allais dire, monsieur tout le monde quasiment aujourd'hui, comme le iPhone.
Alors absolument, ça c'est, je pense, une des révolutions en termes de nouvelles technologies pour les personnes déficientes visuelles, c'est qu'Apple, dans son dernier téléphone, donc l'iPhone 3GS, a intégré de base, d'usine, ce qu'on appelle un lecteur d'écran, donc un logiciel qui fait parler le téléphone et qui permet, même si le téléphone est tactile, ce qui est quand même une prouesse technologique, qui permet à un non ou un malvoyant de l'utiliser. En fait.
Et on l'utilise facilement parce que, vous le dites, hein, c'est tactile, ça veut dire que l'écran il est tout plat. Hein. Ça veut dire que n'importe où que vous mettiez les doigts, si vous êtes aveugle, bah, vous allez mettre les doigts sur une fonction. Qu'est-ce qui va se passer si c'est pas la fonction que vous désirez?
Alors je vais essayer de vous en faire une petite illustration radio. Voilà le principe. Donc on 10h34. Voilà, donc là voilà, nous allons
faire. Donc il est 10h34,
voilà, c'est fabuleux.
Et ça prouve que c'est du direct, hein.
Absolument.
Regardez bien chez vous aussi, il est 10h34.
Donc en fait le fonctionnement est simple, la personne va faire défiler en fait son doigt sur l'écran. Elle va se trouver sur un élément et là elle dit par exemple pour déverrouiller l'écran, toucher deux fois l'élément pour le déverrouiller. C'est-à-dire qu'en fait on va circuler avec le doigt,
ouais.
Et quand on tombe sur l'élément qui nous intéresse, on n'a plus qu'à appuyer deux fois.
Ouais. C'est pas un peu du pile ou face quand même, parce que avant de trouver déverrouiller l'écran, certes on va finir par le localiser un peu, mais c'est des petites cases qui sont dédiées à ça. C'est pas vraiment pour dire on a un iPhone, ça fait bien.
Non, je pense pas, parce que l'iPhone est quand même très ouvert en termes d'application, donc ça dépend peut-être de ce que vous voulez en faire. C'est là d'ailleurs tout le propos du CERTAM, c'est-à-dire que on n'est pas là nous pour avoir un jugement de valeur sur les technologies, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ce qu'on essaye de faire nous au quotidien, c'est de dire voilà, ça peut vous permettre de faire ça, ça peut vous permettre de faire ça, et ça ne vous permettra pas de faire ça. C'est-à-dire que une personne qui a un iPhone, elle va peut-être être très intéressée par toutes les fonctions annexes de l'iPhone, pouvoir par exemple gérer ses mails, pouvoir naviguer sur Internet, écouter des livres aussi. Tout à l'heure, on parlait de livres sur un lecteur dédié qu'est le Victor Stream, mais on peut très bien aussi écouter des livres sur un iPhone, par exemple.
D'accord.
Et peut-être qu'effectivement, la fonction de téléphone en tant que telle va moins lui plaire, parce qu'à chaque numéro, elle va devoir tapoter, une fois pour sélectionner le numéro et deux fois pour être sûr que
et
c'est
deuxième numéro, fois pour voilà, le valider.
Pour le valider. En fait. Mais après, je dirais que ça dépend vraiment beaucoup de chacun. Nous, on est là surtout pour apporter l'information et donner la possibilité aux gens de choisir en connaissance de cause le matériel ou le logiciel qui va sans doute lui rendre le plus de service, en fait.
D'accord. Alors, comment vous rendez compte de l'évaluation de ces appareils? Là, on en parle, j'en entends pas souvent parler de cette évaluation. C'est vrai que pour les personnes qui voient, il y a souvent des magazines qui sortent, Les Que Choisir et autres, qui font des comparatifs, donc on est bien au courant. Mais chez nous, enfin les personnes aveugles et malvoyantes, je ne sache pas qu'avant vous, en tous les cas, et même parce que vous êtes là, je n'entends pas parler de ces évaluations. Comment on peut savoir ce qui a été évalué et...
Alors c'est vrai que jusqu'à présent c'était relativement, je dis bien relativement confidentiel, c'est-à-dire que depuis avril 2009, l'association Valentin Huy fait paraître dans ses revues spécialisées, donc le Louis Braille par exemple, ou dans sa lettre d'information électronique, donc le Valentin a eu information, faisait paraître donc ses fiches d'évaluation. Mais c'est vrai que du coup, si on n'y était pas abonné ou si on n'avait pas la possibilité, je dirais, de les lire, on voyait pas nécessairement passer le travail du CERTAM. Et donc depuis aujourd'hui, voilà, on fait le lancement avec Vivre FM. On peut consulter l'ensemble de nos travaux sur www.certam.com.
Merci de nous faire la primeur de cette information. Ça y est, le site internet il est ouvert. Ça veut dire que tous les appareils, en tous les cas les appareils du moment qui ont été testés par vous auront à disposition une évaluation.
Tout à fait, une évaluation. Et puis il y aura évidemment d'autres contenus. Il n'y a pas que nos fiches. Il y a aussi des dossiers pratiques. Comment par exemple lire la presse lorsqu'on est non malvoyant. On essaye aussi d'avoir des actus, donc avec un fil important, et aussi quelques outils de web 2.0. Comme un Facebook pour retrouver plus facilement CERTAM, et puis un fil Twitter entre autres, qui est constamment, je dirais, actualisé.
En tant qu'aveugle, fréquenter un réseau social de la taille de Facebook, c'est possible, c'est bien, c'est ça sert beaucoup, parce que Facebook, c'est quand même un contenu qui est beaucoup, comment dirais-je, cerné, presque parasité par l'image, hein, et d'aucuns s'en plaignent, hein, parce que il y a des retours d'images qui sont pas sympas.
est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est bien? Ben là, je dirais que c'est à chacun d'apprécier.
C'est à chacun d'apprécier, mais c'est possible.
Je dirais que moi, la vraie révolution, je la vois plutôt sur Twitter, parce que Facebook, ça donne de la visibilité à quelque chose, mais c'est pas nécessairement fait pour donner beaucoup de contenu. En revanche, un Twitter, c'est vraiment la possibilité rapidement d'envoyer une actu très concise en moins de 140 caractères sur un tas de sujets. Et comme les gens, en fait, s'abonnent à des fils, etc., on est quand même une petite communauté active au niveau international à rebalancer des informations sur l'accessibilité numérique, sur les aides techniques. Et j'engage vraiment les auditeurs qui seraient intéressés à venir faire un tour sur notre profil et peut-être à voir effectivement comment tout ça fonctionne.
Très bien, nous sommes avec le CERTAM, représenté par Fernando Pinto da Silva, mais pas seulement. Jean-Pierre Carpanini et Linda La Chièvre ne vont pas tarder à se faire entendre sur notre antenne, et peut-être grâce à vous, qui leur poserez des questions au 01 56 88 40 20. Fernando Pinto da Silva, Jean-Pierre Carpanini et Linda La Chièvre sont avec nous pour nous parler du CERTAM, le centre d'évaluation de recherche des technologies pour les aveugles et les malvoyants. Alors, on a compris l'évaluation, mais la recherche dans tout ça, dans quelle direction vous la faites, puisque vous en faites vous-même de la recherche? C'est dit, hein, dans l'intitulé du CERTAM.
Alors, la recherche, pour nous, c'est essentiellement déjà de la veille technologique, savoir un petit peu ce qui va émerger, ce qui peut être intéressant, ce qui ne l'est pas. Donc on essaye effectivement de voir un petit peu quelles sont les tendances qui vont se dégager, comment les accompagner. Parfois on essaye aussi d'aider, je dirais, certaines écoles d'ingé, entre autres, à monter des projets. Mais on essaye de déterminer certaines tendances. C'est comme ça, entre autres choses, qu'on a vu émerger un projet qui nous tient quand même beaucoup à cœur au CERTAM, qui est le projet Ethicode. Donc un projet qui...
Qu'est-ce que c'est, en quelques mots,
Ethicode? En quelques mots, c'est un projet qui permet, à partir d'une douchette code-barre tout à fait standard, comme celle qu'on voit dans les supermarchés, d'attraper un code-barre sur un emballage et de pouvoir récupérer l'information, je dirais, sur un ordinateur ou sur un téléphone mobile, et de pouvoir du coup accéder à l'information même si on ne la voit pas. Donc que ça soit en gros caractère agrandi ou en braille sur une plage braille.
Sur un téléphone mobile, ça c'est important,
par
ce que vous
exemple,
dites. Ça veut dire
pas que sur un ordinateur, mais aussi effectivement sur un téléphone mobile. Les deux sont envisageables.
Parce qu'on se balade pas toujours avec son ordinateur dans le magasin, mais
tout
en
revanche,
le téléphone mobile, c'est plus vraisemblable.
Absolument.
Ouais. Ça c'est intéressant.
Donc ça fait partie des choses évidemment qu'on a vu émerger avec Olivier Jacques, qui porte ce projet déjà depuis un petit moment. Dans les choses qu'on avait émergé récemment, et puis qu'on a appris aussi par voie de presse, il y a le prix Lépine évidemment de cette année, qui nous a pas laissé indifférents, qu'on connaissait déjà depuis 2 ans, parce qu'en fait c'est pas un produit récent, c'est quelque chose qui existe déjà de façon tangible et commercialisé depuis un moment. On était un peu surpris de voir que cet appareil ait pu recevoir, je dirais, ce prix cette année, d'autant plus que très sincèrement, en l'état actuel, c'est quand même pas évident de pouvoir l'utiliser pour lire un document facilement. Ouais. Je veux dire, on annonce du lettre à lettre. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Donc, je pense que c'était plutôt un prix pour décerner, je sais pas.
C'est un encouragement qui est fait, peut-être.
Vraisemblablement, mais il faut.
Parce qu'effectivement, quand on a médiatisé la chose, c'était le truc, je veux dire, sans lequel il était difficile de faire mieux. Enfin, sans lequel il était difficile de.
Bah, écoutez, aujourd'hui, avec ce qui existe, notamment dans le domaine de la téléphonie mobile, vous mettez au-dessus d'un document, même si vous y voyez pas, vous prenez une photo, vous avez la restitution de tout le document en, je dirais, 30 secondes montre en main. Aujourd'hui, avec le top braille, pour arriver à lire une page, je défie quiconque de me la lire en 30 secondes.
D'accord. Bon, donc peut mieux faire. Okay. Dans toutes les directions, c'est bien qu'on travaille, hein, de toute façon. Mais il faut savoir aussi ne pas avoir la langue de bois, puis dire bon on top braille, on voit pas très bien pour l'instant à quoi ça sert.
Et ça fait également partie des missions du CERTAM, justement, que de le dire clairement, et pourquoi pas évidemment d'aider les concepteurs de bonne volonté à améliorer leurs produits.
De temps en temps, il y a des concepteurs comme ça qui vous ont un peu tapé sur les doigts, qui vous ont dit n'êtes pas allé de main morte avec le dos de la cuillère.
C'est déjà arrivé, effectivement, ouais. Mais je pense qu'ils comprennent aussi dans quel but on le fait, et pour beaucoup d'entre eux, même si on a pu être un peu sévère sur tel ou tel point, ce sont des gens, au contraire, qui ont bien compris nos critiques, qui ont du coup même su ou pu, je dirais, améliorer leurs produits par la suite.
Alors, on a beaucoup parlé des technologies dédiées aux personnes aveugles. Et reste qu'il y a des personnes malvoyantes. Ce sont elles les, peut-être les plus difficiles également à satisfaire parce qu'on parle moins d'elles également. Donc, certaines personnes pourraient penser qu'elles n'existent pas, ces personnes-là. Et elles existent et elles ont des besoins. Alors, qui veut en parler? Jean-Pierre Carpanini, Linda, la Kièvre, pourquoi pas?
Oui, bah, je peux commencer éventuellement.
Oui, Jean-Pierre.
Donc, oui, effectivement, c'est une population qui est très nombreuse et qui est de, à la limite de plus en plus nombreuse du fait du vieillissement de la population, très diverse aussi, puisque les besoins sont, sont très différents, les pathologies sont très différentes, donc il y a des l'acuité ou champ visuel peut être très différent d'une personne à l'autre. Donc on a également une diversité de produits très très importante, et il y a eu un développement important, notamment au niveau des matériels d'agrandissement.
Les pathologies sont différentes et puis les personnes atteintes également, puisque vous le disiez, ça peut tomber sur des jeunes, des tout jeunes, et puis ça tombe aussi sur des moins jeunes, des personnes vieillissantes, effectivement. Tout à fait. Et là, qui n'ont pas les mêmes besoins.
Qui n'ont pas les mêmes besoins, même si on voit depuis quelques années un changement au niveau des besoins. Il y a encore quelques années, les personnes âgées ne recherchaient pas d'outils technologiques. Maintenant, on rencontre de plus en plus de personnes retraitées ou d'âge relativement avancé qui ont été confrontés à l'informatique et qui ont également des besoins à ce niveau-là. Donc, on les voit de plus en plus s'intéresser à des logiciels d'agrandissement ou des produits informatiques adaptés.
Oui. Là encore, on parle beaucoup informatique, peu d'appareils, j'allais dire, comment on appelle ça, plutôt autonomes, pour lesquels il n'y a pas besoin d'ordinateur.
Alors, c'est vrai que le gros des produits pour les personnes malvoyantes, c'est les produits d'agrandissement. Donc, ce qu'on appelle communément les loupes électroniques. Donc on en a maintenant en gros on a deux grosses catégories, les loupes, ce qu'on appelle les téléagrandisseurs fixes, qui sont utilisés généralement à domicile, qui disposent d'un écran de taille relativement importante, avec un plateau de lecture sur lequel est posé le document, et puis des appareils portables et autonomes qui vont permettre une utilisation nomade, et donc répondre à des besoins d'agrandissement lors de ses déplacements, pour lire un menu, pour lire des étiquettes de produits, etc.
Les nouvelles technologies pour les personnes aveugles et malvoyantes sont en haut de l'affiche pour nous aujourd'hui via le CERTAM que nous allons retrouver après quelques notes de musique. Ce sont les dernières minutes que nous passons en compagnie du CERTAM, le Centre d'évaluation de recherche des technologies pour les aveugles et les malvoyants. Autour de la table, Fernando da Silva, Jean-Pierre Carpanini et Linda Lakièvre, que nous n'avons pas encore entendu. Bonjour Linda.
Bonjour.
Alors Linda, vous êtes bénévole.
Oui, je suis bénévole, plutôt côté Basse Vision.
Basse Vision, d'accord. Comment on devient bénévole au CERTAM? Qu'est-ce qui vous a pris? Parce que justement, vous pensiez qu'il y avait plein de choses à dire sur ces appareils, sur leur utilisation. Quel a été votre cheminement?
Moi, là-bas, je suis pas technophile. Les ordinateurs, ça me parle pas beaucoup. Donc,
vous n'êtes pas la seule.
Mais c'était aussi dans le... Enfin, le projet m'a plu, la création de la base de données, je trouvais ça bien, je trouvais que ça manquait un peu. Et puis après, je suis venue voir un petit peu ce qu'était le CERTAM et me rendre compte par moi-même de ce que j'allais pouvoir y faire ou y apporter. Mmh. Et puis, on m'a expliqué un petit peu en quoi consistait, entre guillemets, mon travail. Et voilà.
Donc et vous y avez pris goût.
Exactement.
Et par là même, vous-même, vous avez été informé sur l'existence d'appareils que vous ne connaissiez pas ou sur l'utilisation d'appareils que vous connaissiez peut-être, mais mal. Quelle a été là encore? Comment vous avez vu ça?
J'avais une idée plus générale des appareils qui m'ont été présentés. Bon, je savais ce qu'était un téléagrandisseur, je savais ce qu'était une loupe électronique portable, mais je faisais pas. Enfin, je ne. Pour moi, un téléagrandisseur, c'était un téléagrandisseur et c'était un peu, peu importe la marque, peu importe ses fonctions, il était bon pour tout le monde. Donc, j'avais pas l'idée qu'il puisse s'adapter à tel ou tel problème de vue.
C'est ça. Là, vous avez appris qu'il y avait des problématiques différentes et que pour telle problématique, tel appareil était plus performant.
Oui, que ce soit pour des problèmes de vue différents des personnes qui s'en servent ou l'âge des personnes aussi qui s'en servent et leur utilité.
Mmh. Et aujourd'hui, ça vous plaît, vous ne lâcheriez pour rien votre rôle au sein de l'association?
Non, je suis même passée d'une fois par semaine à deux fois par semaine cette année, ouais. Donc vraiment, ça me plaît vraiment.
Alors si vous passez deux fois par semaine, ça veut dire qu'il y a toujours des appareils nouveaux à tester. Combien de temps ça dure une évaluation? Comment ça se passe? Est-ce qu'on pourrait en quelques secondes parler concrètement de la façon dont se déroule une évaluation?
Comme l'a dit Fernando en début d'émission, les produits nous sont confiés pour une période donnée, donc on a ce temps pour l'évaluer. Je suis pas la seule à le faire. Mmh. Moi, j'y apporte juste ma petite contribution. On me présente un produit avec sa notice, et après j'essaye de m'en servir comme je m'en servirai au quotidien en essayant.
C'est
de,
ça. Vous notez
les points forts,
ce que vous pensez
faibles,
être, voilà, c'est ça, les points forts, les points faibles.
Mais pas que ça, à qui ça pourrait correspondre, si c'est facile, par exemple, pour une personne âgée de s'en servir, qu'il y a plein de choses comme ça.
Et ça peut durer quoi, combien de temps? Ça se compte en termes d'heures, de jours, enfin, on y revient, on fait une première évaluation, puis le lendemain, ou quand on revient la prochaine fois, on y revient, comment ça se passe?
Il n'y a pas de temps défini, c'est vraiment selon le temps qu'on a l'objet en garde, et on peut y revenir, on peut... Après, en discuter aussi si on sait pas trop après quoi regarder. Enfin, Jean-Pierre m'aide aussi pour ça.
C'est ça, parce que l'appareil, c'est aussi passe à ton voisin, quoi. Une fois que vous avez fait vous-même l'évaluation, vous le passez au voisin qui va le tester de la même façon, ou en tous les cas, de la façon dont il envisage de le tester, et il va faire lui-même son rapport, et vous allez faire une compilation de ces deux rapports, ou de plusieurs de ces rapports.
Oui, ce serait plus à Jean-Pierre de vous en parler, mais moi, je donne un petit peu ce que j'ai pu constater de l'appareil, mes remarques. Je donne un petit peu mes remarques sur l'objet que je suis en train de tester, et après avec d'autres on met un petit peu tout ça en commun et d'évaluation est faite.
C'est l'objet du fruit d'une discussion. C'est pas uniquement le rapport de Linda.
Non, pas du tout. Loin de là. Non. C'est vraiment certainement c'est aussi ça qui est. C'est pour ça que j'invite aussi les gens à venir et à se présenter pour être bénévole. C'est vraiment un travail d'équipe.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas technophile. Ça veut dire que même si on est un peu rétif à la technique, et pourquoi pas, au début, on peut s'essayer à venir au certain, mais dire, après tout, moi, je veux tester aussi, parce que il faut que les gens qui ont des difficultés avec la technique, qui ne l'approuvent pas forcément, puissent dire leur approbation ou leur désapprobation ou ce qu'ils en pensent.
Et c'est aussi pour soi. Moi, je sais que depuis que je suis au CERTA, mais j'ai appris aussi des choses que je n'aurais jamais appris si j'y avais pas été. Donc, ouais. Je suis pas technophile à la base, mais j'ai découvert aussi des logiciels que je ne connaissais pas. Donc, ça m'aide aussi, moi.
Très bien. Merci, Linda. Merci de cet effort que vous avez fait, parce que je sais que c'était pas si facile pour vous.
Merci.
Les coordonnées du CERTAM avant de se quitter tout de même.
Alors, le CERTAM, on peut le retrouver, sur son site internet, www.certam-avh.com. Mmh. Donc, il se trouve à l'association Valentin Huy, au 5 rue du Roc, à Paris, dans le 7e, métro du Roc. Et on peut nous joindre par téléphone au 01 44 49 27 27.
Merci à vous trois, Fernando Pinto da Silva, Linda Lachièvre et Jean-Pierre Carpanini, d'être venus nous présenter le CERTAM. Vous reviendrez ce soir sur vivrefm.com, dès 20h, puis cette nuit, à partir de 0h.